VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou avec vous, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30 en temps universel du 19 septembre 2018. Voici les titres. Au Niger, toujours pas de nouvelles du prêtre italien enlevé depuis lundi au sud-ouest du pays.
Ils ont tiré à l'air. Maintenant qu'on a appris qu'ils sont rentrés aussi chez les sœurs. Et après, ils ont parti. Ils n'ont pas pris les sœurs. Ils ont parti seuls avec la moto. Et ils ont fui avec le père seulement.
Un témoignage à écouter dans quelques instants. L'Union africaine exige des excuses du ministre italien Matteo Salvini suite à ses déclarations sur l'importation d'esclaves. Les dirigeants des deux Corées poursuivent leur rapprochement. Ils ont tenu une conférence de presse commune à Pyongyang. Le président Trump a salué le travail des secours et promis l'aide fédérale aux régions ravagées par l'ouragan Florence. Ne manquez pas la Minute Éco et la page sport avec la suite de la Ligue des Champions. Mais tout d'abord, le journal. Toujours pas de nouvelles du prêtre italien enlevé lundi soir dans le sud-ouest nigérien par des hommes à moto. En l'absence de toute revendication, on ne connaît pas non plus les ravisseurs du père Pierre Luigi Makali. Selon les autorités nigériennes, des poursuites sont engagées pour les trouver. À la paroisse Bamongoa, située à 125 km de Niamey, les religieux italiens travaillaient avec deux autres prêtres qui n'ont pas eu, eux, été inquiétés. Le correspondant de VOA Africa Niamey, Abdul Razak Idrissa, a rencontré un d'eux. Il s'agit du père John Arukiya Das qui témoigne en exclusivité sur VOA Afrique sur les circonstances de l'enlèvement de leurs collègues.
Entre 9h30 et 10h, il y avait des bruits chez le père. Donc, je n'ai pas soulevé pour aller voir parce que je pensais que les gens du village sont venus avec un gars qui est possédé parce qu'ils ont crié. C'est ça que j'ai pensé. Et après, le père aussi, il est sorti, il a ouvert la porte pour voir qui sont les gens. Et après, j'ai attendu aussi, le père, il a dit, sors. Donc ça, j'ai confirmé que voilà, le père vraiment, il chasse le démon. Les gens commençaient à tirer le fusil à l'air. Donc il y avait des bruits, doum, doum. Juste 2 minutes, je me suis levé. Et après, notre cuisinière, il m'a appelé pour dire que, « Ah, mon père, il ne faut pas allumer votre lampe chez vous, il ne faut pas sortir. »« Ah, pourquoi ?» J'ai demandé, il m'a dit, « Ah, il y avait les bandits chez vous. Les bandits sont enlevés le père. »
Toujours au Niger, le ministère de la Santé a ordonné la fermeture de plusieurs centrales pharmaceutiques privées de Niamey, notamment pour des médicaments douteux ou périmés. En Guinée, à Conakry, quelques 200 personnes ont manifesté leur soutien au président de la Cour constitutionnelle guinéenne, Khalifa Sall, désavoué par les autres magistrats de cette instance et également en froid avec le chef de l'État, Alpha Condé. L'ex-chef de guerre et ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba va faire appel de la peine prononcée contre lui pour subornation de témoins. Il espère obtenir l'annulation de sa condamnation qui lui a valu d'être exclu de la course à la présidence en République démocratique du Congo. Le processus électoral aborde sa dernière ligne droite en RDC avec la publication aujourd'hui de la liste définitive des candidats qui doit officialiser l'exclusion de M. Bemba, chef du mouvement de libération du Congo, de même que celle de l'opposant Moïse Katumbi. Au Cameroun, 5 candidats de l'opposition ont accusé les médias d'État de privilégier les informations relatives à Paul Biya, chef d'État sortant et candidat à une 6e réélection lors de la présidentielle du 7 octobre prochain. Ces derniers parlent du traitement biaisé et volontairement déséquilibré par les médias d'État. Les propos du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, sur l'importation d'esclaves africains continuent de défrayer la chronique. La Commission de l'Union africaine exige que le politicien d'extrême droite retire ses déclarations désobligeantes. John Lyndon.
Dans un communiqué rendu public hier soir, la Commission de l'Union africaine s'est dit effarée par les commentaires formulés par Matteo Salvini durant une récente conférence à Vienne. Au cours de celle-ci, le ministre italien de l'Intérieur avait en effet comparé les migrants africains à des esclaves. Dans une vidéo diffusée le 14 septembre par l'entourage de M. Salvini, on voit ce dernier prendre la parole à une réunion des ministres européens de l'Intérieur pour dénoncer l'idée apparemment formulée auparavant par le ministre ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, selon laquelle l'Europe vieillissante a besoin d'immigrés. En Italie, nous ressentons l'exigence d'aider nos enfants à faire d'autres enfants et pas avoir de nouveaux esclaves pour remplacer les enfants que nous ne faisons plus, explique l'homme fort du gouvernement italien, après quoi s'en est suivi un vif échange entre les deux ministres. Dans le débat d'un engagement constructif dans le débat sur la migration entre l'Europe et l'Afrique, l'Union africaine exige donc que Matteo Salvini retire ses déclarations désobligeantes. L'intéressé ne s'est pas pour l'heure plié à cette demande.
Amnesty International vient de publier un rapport sur l'armée sud-soudanaise et ses milices alliées. Elles se sont livrées à de nouvelles atrocités d'une brutalité ahurissante contre des civils lors d'une offensive menée d'avril à début juillet dans le nord de ce pays en guerre civile.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé qu'il compte effectuer une visite historique à Séoul à l'issue d'un sommet à Pyongyang avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est rendu dans la capitale nord-coréenne pour tenter de sortir de l'impasse les négociations sur la dénucléarisation du Nord. Il a indiqué que la visite de son homologue Kim Jong-un pourrait intervenir cette année, ajoutant que la Corée du Nord a accepté, je cite, de fermer de façon permanente son site de test de moteurs de missiles. Le président nord-coréen a aussi affirmé que son pays pourrait fermer son complexe nucléaire de Yongbyon si Washington prenait des mesures correspondantes. M. Moon a entamé hier une visite de 3 jours à Pyongyang pour son 3e sommet depuis le début de l'année avec Kim Jong-un. Lors d'une rencontre historique en juin entre le dirigeant nord-coréen et le président Donald Trump à Singapour, Kim Jong-un a réitéré son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Washington exige une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée. De son côté, Pyongyang veut une déclaration officielle des États-Unis pour marquer la fin de la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953 sur un simple armistice. Le Nord accuse les Américains de vouloir un désarmement unilatéral sans faire de concessions et sans alléger la pression ou les sanctions.
Ici, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a salué le travail des secours et promis une aide fédérale aux régions du sud-est ravagées par l'ouragan Florence. Près de 40 personnes ont perdu la vie. Abdourahmane Dia.
Donald Trump a atterri sur la base des Marines de Cherry Point en Caroline du Nord, à une trentaine de kilomètres de la côte où l'ouragan a touché terre vendredi dernier. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie ont été frappées par Florence qui a dévasté de nombreuses zones et provoqué des inondations. L'ouragan a fait plusieurs victimes, dont des enfants, et causé des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars. Les inondations sont historiques, difficiles à croire, a souligné Donald Trump en rencontrant les responsables des opérations de secours sur la base. Florence est l'un des ouragans les plus puissants et dévastateurs ayant frappé le pays, a-t-il rappelé, saluant le travail de plus de 20 000 personnels fédéraux et militaires, ainsi que les volontaires ayant participé aux opérations de secours. Dans les deux États des Carolines, les rivières ont débordé et pour certaines n'avaient pas encore atteint leur pic de crue.
Les dirigeants des États-Unis se disent toujours prêts à rencontrer leur homologue iranien, mais ce sont ces derniers qui jusqu'ici refusent à déclarer un haut responsable du département d'État américain. En Turquie, selon Reporters sans frontières, un tribunal d'Istanbul a condamné à 3 ans et 9 mois de prison les dirigeants d'une chaîne de télévision fermée après le coup d'État manqué de juillet 2016 pour propagande terroriste. La Turquie, qui occupe la 150e place sur 180 pays au classement de la liberté de la presse établi par RSF. En Syrie, selon une ONG, des milliers d'habitants ayant fui les bombardements dans la province d'Idleb et ses environs sont revenus dans leur localité depuis l'annonce lundi d'un accord russo-turc concernant l'ultime grand bastion d'insurgés en Syrie. Des milliers d'employés de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ont manifesté ce mercredi dans la ville de Gaza contre les licenciements prévus pour faire face à l'arrêt des financements américains. Plus de 5000 personnes, parmi lesquelles des personnalités du mouvement islamiste Hamas et des hauts responsables d'autres organisations politiques, ont pris part au cortège. 2/3 des Gazaouis sont des réfugiés et 80% des quelque 2 millions d'habitants sont tributaires de l'assistance internationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Banque centrale sud-africaine, la SARB, en plein dilemme. Doit-elle remonter ses taux pour contenir l'inflation alors que son économie est tombée en récession? En tout cas, demain, la SARB a rendez-vous avec les investisseurs. Elle doit en effet se prononcer sur une éventuelle hausse des taux alors que sa devise est mise à mal sur les marchés depuis quelques semaines, moins de 9,9% depuis le 1er août. La hausse du dollar a mis la pression sur les devises émergentes et donc sur les banques centrales de divers pays, dont l'Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, le gouvernement propose de supprimer la représentation du secteur privé au sein du conseil d'administration du Conseil Café Cacao à partir de l'année prochaine. Les autorités ivoiriennes trouvent les intérêts privés trop divisés et craignent qu'ils entravent les réformes d'harmonisation du système de mise en vente du cacao avec le Ghana. Et pour terminer, la Tunisie qui s'attend à une hausse du service de sa dette qui devrait atteindre un niveau record de plus de 9 milliards de dinars, soit 3,24 milliards de dollars. L'information a été donnée par le ministre des Finances, Rida Chalgoum. Il faut dire que l'économie tunisienne a traversé une période difficile. Les finances du pays nord-africain peinent à se relever de la crise causée par le renversement de l'ex-président Zine Abidine Ben Ali en 2011, suivi des troubles à l'origine de la montée du chômage et de l'inflation.
C'est à présent le moment de votre page sportive qui vous est présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekea, bonsoir à tous.
Suite de la Ligue des Champions ce soir.
Au programme, le Shakhtar Donetsk contre Hoffenheim, l'Ajax Amsterdam contre l'AEK Athènes, le Benfica qui accueille le Bayern Munich, Lyon en déplacement sur la pelouse de Manchester City, le Victoria de Plzeň contre le CSKA Moscou, les Young Boys de Berne qui accueillent Manchester United. Enfin, les deux chocs de cette soirée, le FC Valence face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo et le Real Madrid, triple tenant du titre, qui affronte l'AS Rome.
Le FC Barcelone a frappé fort pour son premier match de la Ligue des Champions hier soir.
Victoire convaincante du FC Barcelone 4-0 contre le PSV Eindhoven avec un triplé de Lionel Messi dont un premier coup franc magnifique. Et en deuxième mi-temps, Dembélé qui a marqué pour les Blaugrana. L'Inter Milan a souffert mais s'est imposé 2-1 contre Tottenham. Et puis revenu de 2-0 à 2 partout, le Paris Saint-Germain s'est incliné au bout du temps additionnel à Liverpool. C'est Firmino qui était incertain avant la rencontre qui a crucifié les derniers espoirs parisiens. Galatasaray a profité de la réception du Lokomotiv Moscou pour l'emporter 3-0. Le méconnu capverdien Gary Mendes Rodriguez a ouvert le score. Seul ombre au tableau, l'expulsion du Sénégalais Badou Ndiaye. Iker Casillas, le gardien espagnol du FC Porto et le premier joueur, a joué 20 Ligues des Champions. Ça n'a pas suffi pour que son équipe l'emporte. Match nul, un but partout entre Porto et Schalke 04. Le Borussia Dortmund a fait le travail en s'imposant à Bruges, 1-0. L'AS Monaco s'est incliné à domicile contre l'un des favoris, l'Atlético Madrid, qui l'emporte 2-1. Enfin, Naples a largement dominé l'Étoile Rouge de Belgrade, mais match nul 0-0.
Et la phase de poule de la Ligue Europa démarre demain.
Marseille, finaliste l'an dernier, reçoit l'Eintracht Francfort dans un vélodrome à huis clos. Une décision de l'UEFA liée à divers incidents la saison dernière. Le favori de cette nouvelle édition, Chelsea, sera sur le terrain des Grecs du PAOK. Arsenal, désormais dirigé par Unai Emery, reçoit les Ukrainiens du FC Vorskla. Le Milan AC de Gennaro Gattuso qui va jouer son premier match contre le petit poussé d'Udelange, le premier club luxembourgeois qualifié en Coupe d'Europe. À noter également le Ludogorets face au Bayer Leverkusen ou encore Leipzig contre Salzbourg.
Retour du capitaine dans le groupe de Mazembe.
Mise à l'écart avant le match aller sur le terrain du Primeiro de Agosto en Ligue africaine des champions, Rainford Kabala a réintégré le groupe du tout-puissant Mazembe avant le match retour vendredi à Kamalondo. Les Corbeaux ont besoin d'une victoire pour atteindre les demi-finales.
Tennis, Rafael Nadal blessé.
Le numéro 1 mondial touché au genou droit, une blessure qui l'avait contraint à abandonner en demi-finale de l'US Open, puis à renoncer à la demi-finale de la Coupe Davis face à la France. Eh bien, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour les tournois de Pékin et Shanghai en octobre prochain. Ce double forfait menace son rang de numéro 1 mondial. Novak Djokovic pourrait lui ravir sa place de numéro 1 s'il remporte le tournoi de Shanghai.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eki Abadou, toujours en votre compagnie, place à présent au dossier du jour. La situation continue de se dégrader dans les zones anglophones du Cameroun. Dans un rapport publié mardi, Amnesty International fait état de quelques 400 civils tués depuis le début de l'année par les forces de sécurité ou les séparatistes et de plus de 160 membres des forces de sécurité exécutés par les séparatistes en 2 ans. Les autorités camerounaises ont soumis tout déplacement dans les zones anglophones à une autorisation préalable. Pour une réaction, Timothée Donangbaï a joint à Bouéa, Paul Abiné Aya, président de la fondation Aya, qui s'occupe des réfugiés et des déplacés de la crise anglophone.
Ça laisse un goût très amer à la gauche. Les deux, ça donne un signal très fort à tous ceux qui sont de bonne foi, les modérés, les patriotes, comme on les appelle. Le gouvernement ne veut pas résoudre la crise. Le gouvernement préfère privilégier la force. La force, le visa s'impose lorsqu'il y a deux pays. Lorsque deux pays sont en jeu, le visa s'impose. Si nous sommes en train de critiquer séparatistes parce qu'ils veulent à tout prix couper le pays en deux, pourquoi imposer le visa dans un pays entre deux peuples alors que le pays, selon vous, est indivisible?
Les autorités disent que c'est pour lutter contre les groupes armés qui sévissent là-bas.
Pas du tout. Je vous parle comme quelqu'un qui fait dans l'humanitaire. Je suis sur le terrain 24 sur 7. Nous pouvons établir les responsabilités de deux côtés. Là, c'est légitime de dire qu'il y a des responsabilités partagées de deux côtés, les deux, les radicaux et le gouvernement de l'autre côté. Mais qui a la légitimité du peuple? C'est le gouvernement. Si nous sommes dans ce désordre total parce que le gouvernement a échoué, et le gouvernement préfère rester consistant dans l'échec, tel est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Le peuple entier, tous les Camerounais dans leur ensemble, réclament la libération de tous ceux qui sont en détention et que l'exercice des forces de l'ordre cesse. Comment expliquez-vous qu'un homme en PU tire sur un civil non armé? Il ne tire même pas sur lui avec les balles blanches. Il tire l'intention de le tuer.
Des leaders religieux chrétiens et musulmans ont appelé à l'organisation les 21 et 22 novembre d'une conférence générale anglophone à Boya. Comment cette nouvelle est-elle perçue là-bas?
Bon, ça a été bien reçu par une grande partie de la population anglophone. Comme je vous disais tantôt, les autorités préfèrent rester consistantes dans de mauvaises décisions. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas cette conférence, soi-disant conférence, si je peux emprunter un propos, et que ça ne pourrait pas avoir lieu. Ça a commencé avec le meurtre de Bouya. Après, ils prônent les radicaux indirectement. Après, les ministres ont relayé les informations. Donc, ça pourrait avoir lieu. Ça pourrait, à mon sens, à mon avis, contribuer à l'apaisement des tensions. Parce que, selon moi, nous avons déjà franchi la ligne rouge.
Paul Abiné Aya, président de la Fondation Aya, joint à Bouya.
Âgé de 45 ans.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, les habitants de la ville de Keida Sabo, près d'Abuja, expriment leur ras-le-bol sur leurs conditions de vie. La commune de 200 000 habitants se dit privée d'accès aux soins, à l'eau potable et aux routes. Pourtant, le gouvernement fédéral a prévu jusqu'à 180 millions de dollars pour les soins de santé primaire dans le budget 2018. En outre, l'appui de la Banque mondiale pour la même période qui s'élève à 20 millions de dollars, tandis que la fondation Bill et Melinda Gates complète le tout avec 2 millions de dollars. Notre correspondant Gilbert Temba s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Âgée de 45 ans, Aïchatou vit à Keida Sabo, à quelques kilomètres d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Elle dit avoir des problèmes de vision et à chaque fois elle fait plusieurs heures à moto pour se rendre chez son médecin traitant dans une autre communauté à cause du manque de centres de santé dans son village. Cela fait déjà 4 ans que les autorités ont commencé la construction d'un centre de santé, mais les travaux ne sont toujours pas achevés.
C'est triste pour moi de voyager chaque fois jusqu'à un autre village pour recevoir des soins. Je dépense tout le temps de l'argent pour payer mon transport vers les autres villages voisins comme Dobi et Gwagwalada.
Elle n'est pas la seule à vivre ces calvaires à Keida Sabo. Les femmes enceintes dans ce district sont obligées de voyager pendant plus de 3 heures parfois pour atteindre un centre hospitalier. Lors des accouchements, certaines développent de graves complications avant d'arriver au centre de santé. D'autres perdent leurs enfants pendant l'accouchement. Ngassi Obimnebo dirige l'ONG Pitch Aid Medical Initiative qui était venue ce jour et pour la première fois offrir des services de soins de santé primaires aux femmes de Kaïda Sabo.
And I found out that there are two major reasons why the women were dying.
Nous avons constaté qu'il y avait deux causes principales pour les décès des femmes à l'accouchement. La première, les femmes saignent beaucoup durant et après l'accouchement. Et la seconde raison, ce sont les infections. Voilà ce qui nous oblige à changer notre priorité des enfants vers leur maman.
Le manque de soins de santé primaire n'est pas le seul problème de cette communauté. Il n'y a pas de route pour accéder à Kaïda Sabo et pas d'école secondaire. La communauté est pourtant entièrement sous l'autorité du ministère en charge du développement du territoire d'Abuja. Halilou Ayali est le leader de la jeunesse de la communauté. Il se dit satisfait de la visite de l'ONG.
Nous disons merci à Dieu pour ces missionnaires qui sont venus nous assister avec des médicaments qui nous soulagent un peu. Mais tous ces autres politiciens qui viennent ne font rien pour nous.
Comme à Kaïda Sabo, il existe d'autres communautés dans les mêmes conditions aux alentours d'Abuja. Les femmes, principales victimes des difficultés auxquelles le village est confronté, menacent de ne pas participer aux élections de février prochain à cause des promesses non tenues des politiciens qui viennent seulement dans leur communauté en période de campagne électorale. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Nos infos sur voaafrique.com.
Au Tchad, la grève persiste dans le secteur public. Les syndicats des fonctionnaires poursuivent leur lutte pour faire fléchir le gouvernement alors que la rentrée scolaire est fixée au 1er octobre prochain. Les élèves des établissements publics seront encore les plus pénalisés pour l'année 2018-2019. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
La dernière rencontre entre les responsables des organisations syndicales et les membres du gouvernement a accouché encore d'une souris. À entendre les syndicalistes, des concessions ont été faites du côté des travailleurs pour permettre de démarrer la rentrée scolaire 2018-2019, mais le gouvernement reste toujours indifférent à leurs propositions. Pour Barka Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, les autres points peuvent attendre, mais au moins que le gouvernement rembourse aux travailleurs les augmentations générales spécifiques coupées depuis janvier 2018.
Si le gouvernement passe au rétablissement de ces AGS, les travailleurs pourront reprendre le travail et continuer les négociations sur les autres points qui sont restés en suspens. Par exemple, le gel des effets financiers, des augmentations et des reclassements, le frais de transport, la loi 32, etc. Malheureusement, nous n'avons obtenu rien de concret. Les travailleurs ont décidé de poursuivre la grève.
Déjà, le gouvernement s'apprête à lancer la rentrée scolaire 2018-2019 le 1er octobre prochain. La validation de l'année ne se résume pas seulement sur l'organisation du baccalauréat et du brevet d'études fondamentales, mais il faut organiser des scénarios pour permettre aux élèves de classe intermédiaire de passer en classe supérieure avant de parler de la rentrée nouvelle, estime Gartoïde Blaise, secrétaire général du CET pour la commune de N'Djamena.
Pour ce passage-là, on a besoin d'avoir au moins 90 jours encore de cours pour compléter les 90 jours d'avant. En ce moment, nous pouvons donc parler d'une autre année scolaire qu'on s'entende là-dessus. Nous sommes méprisés. Et c'est en ce moment qu'on parle de l'école. De quelle école on veut parler?
Pour le délégué de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena, Dungus Abraï, cette question n'est plus d'actualité.
Et les classes intermédiaires, on a essayé de voir par-ci, par-là. Et tous les établissements ont déjà partagé les carnets à leurs élèves. Donc je me demande de quel bulletin dont il est question.
Les élèves, premières victimes de ce bras de fer gouvernement-syndicat, se tournent vers le Dieu créateur d'où leur viendra le secours.
L'année passée, on a fini avec seulement 2 bulletins et franchement, ça ne nous arrange pas. Je prie tous les jours pour que Dieu aide le président à résoudre le problème qu'il y a.
Je vois ce que le président paye les enseignants pour qu'on reprenne les cours dans les bonnes conditions.
Les autorités, s'il peut faire quelque chose pour les jeunes, parce que nous les jeunes, maintenant, on est énervés.
C'est le cri d'une jeunesse tchadienne désemparée et qui voit son avenir hypothéqué. Même les réseaux sociaux qui permettent à cette jeunesse de se cultiver et d'être en contact avec le monde extérieur sont censurés depuis 6 mois sans aucune explication. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, on fait le point sur le braconnage en Afrique. Le monde connaît une recrudescence du commerce illégal des espèces sauvages et l'Afrique est directement concernée. Alors que le continent concentre ses efforts sur la croissance économique et la stabilisation politique, la disparition des lions, des rhinocéros ou des éléphants passe inaperçue. Le phénomène est d'autant plus difficile à endiguer qu'il rapporte gros. Sur la liste des activités criminelles transnationales les plus lucratives, le trafic des espèces sauvages occupe la 4e place. À qui profite le crime? Quelles sont les difficultés rencontrées par les autorités qui traquent les braconniers? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sims Loumani. À la console, Sidrak Franklin. Présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programmes en notre compagnie.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les opérations en vue de débarrasser l'Irak et la Syrie du groupe État islamique se poursuivent bien, a déclaré le colonel Shane Ryan, porte-parole de la force conjointe de l'opération Inherent Reserve Total Determination. En Irak, les opérations menées par les forces de sécurité irakiennes sécurisent le pays et traquent le groupe État islamique dans les confins désertiques d'Anbar et les montagnes de Kirkuk, Diyala et Salah Hadid, a souligné le colonel Ryan. Les forces de sécurité irakiennes continuent de localiser, d'identifier et de détruire les restes du groupe État islamique. Rien qu'au cours de la première semaine du mois d'août, les opérations conduites par les forces de sécurité irakiennes à travers l'Irak ont permis l'arrestation des 50 terroristes présumés, la saisie de 500 engins explosifs improvisés et d'une grande quantité de munitions. Par ailleurs, les forces de sécurité irakiennes continuent de sécuriser les infrastructures comme les routes très fréquentées d'Irbil, Kirkuk, Hariwija, Samara, Salahadin et le réseau électrique régional qui a fait l'objet d'attaques terroristes du groupe État islamique récemment. En Syrie, a dit le colonel Ryan, les forces coalisées et leurs partenaires préparent la phase 3 de l'opération Roundup dont l'offensive terrestre n'a pas encore débuté. L'opération Roundup est un effort visant à accélérer la défaite du groupe État islamique dans les derniers territoires qu'il contrôle dans la vallée d'Euphrate. Alors que les forces de défense syriennes préparent l'offensive, elles maintiennent aussi un couloir sécurisé pour les civils qui quittant Hajin, le dernier bastion du groupe État islamique dans la vallée de l'Euphrate. Dans le reste du nord-est de la Syrie, les forces locales sécurisent les villes à travers les activités de police et des démantèlements des engins explosifs improvisés, ce qui permet de poursuivre les efforts civils de stabilisation et d'empêcher une résurgence du groupe État islamique. Les efforts de stabilisation en Irak et en Syrie continuent d'empêcher le retour aux circonstances ayant permis l'émergence du groupe État islamique. En Irak, le gouvernement œuvre pour améliorer les conditions de vie à travers le pays en se penchant sur les domaines où les besoins sont le plus importants, en particulier la reconstruction des infrastructures endommagées. En Syrie, les efforts de stabilisation sont axés sur la sauvegarde des vies, le déminage, l'eau, l'électricité et la livraison des produits de première nécessité.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.